Bienvenue, si vous nous rejoignez, on reste ensemble et en direct jusqu'à minuit. Nous ont rejoint sur le plateau Pauline Revenat, chef du service police-justice de BFM TV. Bonsoir Pauline. On est avec Paul Gogo, journaliste et correspondant à Moscou. Merci à vous d'être avec nous sur ce plateau. Jérôme Poirot, consultant renseignement BFM TV. Une question déjà, vous êtes de passage, vous retournez à Moscou bientôt ?
Je suis toujours de passage.
Toujours, malheureusement pour nous.
Comme de retour en France, mais en fait, je suis... à la veille d'un départ en Russie à chaque fois aussi.
Et donc là, vous repartez quand ?
Je repars dans une dizaine de jours à Moscou.
Si vous êtes là, c'est parce qu'on va parler de l'ombre de la Russie qui plane derrière ces 5 cercueils qui ont été déposés samedi au pied de la Tour Eiffel. Les 3 hommes soupçonnés de les avoir déposés échappent finalement à une mise en examen. Ils sont libres. Juste avant qu'on revienne là-dessus, sur cette décision de la justice, Pauline, de quoi s'agit-il pour ceux qui ont manqué cet épisode ce week-end ?
Alors, il s'agit de 3 hommes âgés de 16 à 38 ans, un Ukrainien de 16 ans, donc un Allemand de 25 ans et un chauffeur de 38 ans de nationalité bulgare. Ils sont tous les 3 inconnus des services de police et ils sont à l'origine de ces 5 cercueils lestés de plâtre avec la mention « soldats français en Ukraine » qui ont été déposés, vous l'avez dit, samedi matin au pied de la Tour Eiffel. Les 2 des 3 ont été interpellés alors qu'ils étaient à la gare routière de Bercy et qu'ils partaient à l'intérieur d'un bus en direction de Berlin. Ils ont été interpellés et devant les enquêteurs, ils ont affirmé être sans emploi et avoir agi par besoin d'argent. Le chauffeur dit avoir touché, c'est du déclaratif bien sûr, 120 euros. Les 2 autres, 400 euros. Et puis le chauffeur dit qu'il ne connaissait pas les 2 autres, qu'il est arrivé en Bulgarie la nuit d'avant. Il ajoute qu'il a juste pris le temps de demander aux 2 qu'on part, si vous voulez, d'ouvrir les cercueils pour être bien sûr qu'il y avait du plâtre à l'intérieur et pas autre chose.
Ils ont donc finalement été libérés. Le parquet avait requis une mise en examen.
Oui.
Ça n'a pas abouti.
Eh bien, le juge d'instruction ne les a pas suivis. Ils sont libres ce soir, libres de leur mouvement. Ils sont placés sous le statut de témoin assisté. Ça veut dire que le juge d'instruction va pouvoir décider soit de continuer son enquête, soit de classer cette enquête. Ça veut dire qu'à ce stade, il n'y a pas d'élément assez caractérisé pour prononcer cette mise en examen. Et c'est probablement ce qu'il faut regarder, ce système qui est si compartimenté et si sophistiqué. Nous, vu de l'extérieur, on peut avoir l'impression que c'est des pieds nickelés, mais finalement, ça permet de ne pas vraiment prouver la matérialité. Et ce soir, ils sont seulement témoins assistés.
Donc, 3 hommes de nationalité différentes qui disent ne s'être rencontrés que la veille, qui avaient tous une mission qui leur avait été donnée, c'est ce qu'ils racontent encore, pour des montants de 120 à 400 euros pour déposer ces cercueils donc au pied de la Tour Eiffel. Jérôme Poirot, la question qui se pose, c'est est-ce que oui ou non, la Russie est derrière ?
Ah, ce sera très difficile d'avoir des preuves irréfutables, notamment des preuves judiciaires de l'implication du Kremlin. Mais il ne fait aucun doute que c'est le cas. Qui d'autre a intérêt à commettre ce genre de méfaits ? On ne voit que la Russie. C'est typique de ce qu'ils font. Et puis on peut rappeler que Pierre Tolstoï, le vice-président de la Douma, c'est-à-dire le Parlement russe, dans une interview qu'il avait accordée à BFM il y a quelques semaines, avait parlé de l'éventualité de soldats français venant combattre sur le sol ukrainien. Il avait dit ils repartiront dans des cercueils.
Vous savez quoi, on l'a cette petite séquence.
Magnifique.
Vous m'avez fait la transition. On regarde donc Piotr Tolstoï, député à la Douma, qui effectivement dit des choses prémonitoires. On écoute.
Je veux dire très directement que l'idée d'envoyer les soldats français en Ukraine, ça va se terminer par les cercueils en Orly, couvert par le tricolore, et c'est pas Macron qui va aller les chercher. Donc les Français, ils doivent comprendre les conséquences.
C'est vrai que c'est troublant. Paul Gogo, la signature russe, elle est là, elle ne fait que peu de doutes.
Sachant que ce discours, on l'entend en Russie au quotidien. C'est moi, les gens, même en reportage, le russe lambda me dit si vous envoyez vos hommes, on va les détruire. Et d'ailleurs, on m'explique que c'est déjà arrivé parce qu'il y a eu cette fake news il y a quelques mois de mercenaires français qui auraient été tués en masse dans la région de Kherson, si je ne me trompe pas.
Ce qui est totalement faux.
Kharkiv. Ce qui était totalement faux parce que j'avais même une connaissance qui était dans cette liste et qui était bien vivant et d'ailleurs journaliste et qui était en France à ce moment-là. Mais les Russes, eux, n'ont pas accès à la correction de ces fake news et donc sont convaincu que ce genre de choses sont réellement arrivées. Donc, effectivement, pour les Russes, ce genre de choses sont faisables, sont autorisé.
Et le mal est déjà fait, en fait.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, ce genre de choses, alors ça a des conséquences sur notre société, on en parle, la façon dont on reçoit les choses, mais c'est aussi utile à l'intérieur du pays. Et je regardais tout à l'heure, j'ai un confrère, Nicolas Quesnel, avec qui j'avais fait une enquête il y a quelques années sur Inforos, qui est une espèce de galaxie, de petits sites internet sans grand intérêt, sans grande audience, mais qui est en fait dirigé par le GRU. Je m'étais rendu sur place et je peux témoigner, j'étais allé jusqu'au QG à Moscou. C'est vraiment quelque chose qui est lié au Kremlin. C'est un QG, une rédaction qui est liée au Kremlin. Mmh. Et en fait, ils diffusent des informations en français, dans plein de langues, mais surtout en français, qui sont ensuite repris par nos idiots utiles français, on va dire, en tout cas ceux qui se font le relais de la propagande russe. Et en fait, depuis ce week-end, eh bien, cette galaxie Inforos, dirigée par le GRU, le renseignement militaire russe, eh bien, elle parle beaucoup de ce qui s'est passé au pied de la Tour Eiffel. Donc, il y a les faits, et puis derrière, il y a l'utilisation de ces faits par tous ceux qui se font le relais de la propagande du Kremlin.
Mais Charles, vous aviez une question.
Une remarque, en tout cas, que je peux formuler sous forme de question. Est-ce que vous ne pensez pas que la réaction très fébrile des Russes par rapport aux propos d'Emmanuel Macron sur l'éventuel envoi de troupes françaises sur le front ukrainien ne traduit pas leur crainte, en fait, que cela se produise? Moi, je trouve que cette opération cercueil sous la Tour Eiffel, elle est plus le signe d'une fébrilité que le signe d'une grande confiance. Je crois qu'ils sont pas très contents qu'on ait donné des canons César aux Ukrainiens, parce qu'apparemment nos canons César sont très performants, et qu'en fait, ils feraient peut-être pas tant que ça les malins si on commençait à envoyer des Charles Leclerc et que sais-je encore sur le terrain.
Ça traduit de la peur.
Je le souhaite,
mais... Paul Gogo, est-ce que vraiment on en parle beaucoup en Russie de ces mots du président?
C'est juste, on en parle beaucoup. Il y a une obsession en ce moment des autorités russes sur ce sujet, le sujet de l'éventuel envoi d'hommes en Ukraine. Et c'est un sujet qui est débattu, enfin dont on parle, on n'en débat pas en Russie, on en parle dans les médias d'État, dans les médias de propagande. Et on comprend, enfin, je pense que dans leur esprit, ce qui s'est passé au pied de la Tour Eiffel, c'est aussi une façon de marquer une ligne rouge. Il y a le nucléaire qui est souvent utilisé pour marquer les lignes rouges. Bon, bah là, les cercueils, il y avait du ciment dans les cercueils cette fois-ci. Rien ne nous dit que la prochaine fois, il n'y aura pas des explosifs et que ce ne sera pas pendant les Jeux Olympiques.
Ils pourraient aller jusque-là?
Je ne sais pas s'ils pourraient aller jusque-là, mais en tout cas, visiblement, c'est possible. Ils sont parvenus à déposer des cercueils au pied de la Tour Eiffel.
Il a fallu quelques minutes. Hein,
en fait. Assez facilement, visiblement. Donc, ce serait totalement possible. Il y a eu d'autres pays dans lesquels il y a eu des départs d'incendie sur des entrepôts, ce genre de choses. Donc, ça peut aussi être des actions plus violentes.
Mais là, c'est de l'ordre de la violence psychologique. Et ça a un impact aussi sur l'opinion française.
Oui, bien sûr, considérable, puisque c'est un sujet qui... Je ne dirais pas qu'il fracture l'opinion, mais pour lequel l'éventualité d'envoi de soldats français en Ukraine pour combattre l'armée russe, ce n'est pas un sujet pour lequel il y a, je crois, un large consensus, ni dans la population, ni au sein de la classe politique. Donc, évidemment, ça fait partie de la stratégie russe classique de désinformation, de propagande et de mesures actives, puisque tout ça, on appelle ça des mesures actives, de la guerre psychologique, c'est d'utiliser tout ce qui peut fracturer, tout ce qui peut abîmer les démocraties, tout ce qui peut affaiblir. Et on peut le voir, et je crois qu'on doit le voir aussi comme une ingérence dans les élections européennes de dimanche prochain.
C'est directement lié pour vous à une semaine des élections?
Sans aucun doute, parce que le calendrier est celui-là, une semaine avant l'élection, quelques jours après que le chef d'état-major de l'armée ukrainienne a indiqué que les instructeurs français, dorénavant, formeraient des soldats ukrainiens en Ukraine. Donc, c'était une première étape vers des soldats français, non pas combattants. Voilà, donc je pense que c'est entre les deux, entre cette annonce et puis les élections européennes.
Donc, c'est une manière d'inciter à voter Rassemblement National, par exemple, tous ceux qui ont critiqué les mots du président.
Ça crée de l'intranquillité.
Ils ont décidé de renverser la table des relations internationales. Oui. Ils ne peuvent plus le faire par les moyens de la diplomatie classique depuis la guerre. Et on les voit attiser les éléments de déstabilisation sociale, mais dans tous les domaines. On l'a vu en Nouvelle-Calédonie avec les Kanaks. On le le voit dans tous les mouvements de protestation anti-israélien, qui sont aussi, on trouve des réseaux russes, des fermatrolls qui attisent.
Mais là, en plus, on a un lien direct avec les mains rouges.
Alors justement, voilà,
exactement.
Et aux États-Unis et ailleurs en Europe.
Et ailleurs
la
en
France
Europe.
N'est pas la seule à être visée.
J'allais y venir, Pauline. L'un des trois hommes qui ont été interpellés a eu un lien avec un protagoniste d'une autre affaire, l'affaire
précise,
des mains rouges, c'est
pour
ça.
Pour être plus précis, c'est un quatrième homme. Les trois hommes là qui sont interpellés, qui sont sous statut de témoin assisté, ils sont liés au cercueil. Mais dans la téléphonie d'un des trois, on retrouve un lien avec une personne qu'on cherchait sur le dossier des mains rouges. Cette personne, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, elle n'est pas interpellée, elle est toujours en fuite. Et donc, c'est un Bulgare de 34 ans qui est cherché, mais qui, à l'heure où on se parle, est probablement plus sur le territoire national.
Et on rappelle ce que c'est que les mains rouges, c'était dans la nuit du 13 au 14 mai, des mains rouges qui avaient été taguées.
Sur le mémorial de la Shoah à Paris, et une autre dizaine de tags dans le 4e et dans le 5e arrondissement.
Et les policiers soupçonnent trois personnes qui ont fui à l'étranger.
Qui ont fui, exactement, c'est du copier-coller, dans un bus, direction, cette fois-ci, je crois, la Bruxelles. Mmh. Et ils n'ont pas pu être interpellés, alors que là, cette fois-ci, ils étaient en cours de judiciarisation. Ils sont maintenant sous témoin.
Ça rappelle d'ailleurs aussi les étoiles de David.
Oui, complètement.
Les étoiles bleues. Les étoiles qui avaient été taguées un peu partout sur les façades des immeubles.
Ça, c'était un trio moldave.
En région parisienne.
Il y a des Bulgares, des Moldaves.
Et ça, ça a été directement imputé par les autorités françaises.
C'est très difficile.
Au service de sécurité russe.
Oui,
ou pas,
mais
tout
c'est
à fait.
Très difficile, en fait, d'accrocher judiciairement cette ingérence. Donc, on cherche des chefs d'accusation. Ça tient pas. Là, ce soir, ça tient pas. Le parquet avait demandé une mise en examen. Ils n'ont pas été suivis. Donc, c'est très compliqué de caractériser judiciairement l'ingérence. Il y a un ensemble de faisceaux. Tout est fléché vers le Kremlin. Mais on n'arrive pas à le caractériser.
Mmh. Pablo.
Non, et puis, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est le caractère low cost, en fait, de cette ingérence. Mmh. C'est-à-dire que si j'additionne, on est sur 2 × 400 € plus 120 euros. C'est-à-dire qu'avec 920 € il y a une tentative d'ingérence russe en posant 5 pauvres cercueils.
C'est pas une tentative. C'est une ingérence très réussie.
Une ingérence très réussie. Mais si je compare, en fait, à très bas coût. Et si je compare avec les ingérences qui ont fait aussi l'histoire entre nos nations depuis maintenant 200 ans, je veux dire, quand on parle, par exemple, de Benedict Arnold, qui était un général de l'armée américaine qui s'est vendu en fait aux Britanniques pendant la guerre d'indépendance américaine au 19e siècle, au 18e siècle, pardon, c'était quand même autre chose. Enfin, je veux dire, c'était, il tapait les généraux, il retournait les généraux. Mmh. Là, on demande à trois pauvres types, on leur donne trois
bidets. Qui se connaissent ni d'Adam, on leur dit
allez poser un truc. Oui. Non, mais, et c'est comme ça pour tout. C'est comme ça pour les vidéos TikTok dont parlait Géraldine tout à l'heure, les révoltes Kanak, c'est-à-dire c'est du rien en fait qui est proposé. Et tout à l'heure, Paul disait, mais c'est pas grand-chose. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que c'est des petits sites qui diffusent des informations qui ensuite sont réutilisées par les médias russes, etc. Mais le problème, c'est réussir à tarir en fait ce réseau.
On peut pas tarir parce qu'en fait, ça s'appuie sur nos idiots utiles dont vous parliez très bien et sur des éléments qui, à l'intérieur, sont aussi des éléments qui souhaitent ce chaos et cette perturbation. Donc finalement, il suffit de les renforcer. Mais si ça disparaissait, ces éléments-là perturbateurs à l'intérieur, ils existeraient toujours.
Avant de réfléchir aux manières de contrer ces ingérences, juste je rebondis quand Pablo dit c'est du low cost. C'est du low cost.
Low cost parce que le résultat est obtenu, mais c'est quand même sophistiqué, puisque en gros, ce sont les services de renseignement russes qui sont à l'origine de ça. Il faut quand même concevoir ces opérations. Il faut qu'il y ait suffisamment d'intermédiaires pour qu'on ne puisse jamais remonter jusqu'aux commanditaires initiaux. Donc c'est assez sophistiqué, il y a cette multiplication. Mais ce n'est pas parce que ces opérations sont sophistiquées qu'il n'y en a pas d'autres qui sont extrêmement coûteuses. Il y a beaucoup de gens qui sont achetés, en France, aux États-Unis, ailleurs en Europe. Alors, vous parliez d'un général anglais, il y a dans les élites, de manière générale, économique, politique, intellectuelle, chez les journalistes, partout en Occident aussi, il y a des gens qui, pour des raisons diverses, parfois, y compris pour de l'argent, qui propagent la propagande.
On a d'ailleurs eu une autre séquence à vous montrer, tirée de notre documentaire Ligne Rouge, qui montre à quel point l'influence russe va même jusque dans les zones rurales, chez certains élus. On parle par exemple, là, vous allez voir Cyril Gaucher, adjoint au maire de Talent, en Côte d'Or. Il est intervenu sur un média russe en tant qu'observateur international pour donner son avis, sa vision de l'élection présidentielle russe. On regarde cette séquence.
Invité sur la chaîne pro-Kremlin RT en français, dont la diffusion est interdite en France, Cyril Gaucher vante le déroulement de l'élection.
On voit des gens qui viennent au bureau de vote détendus, avec le sourire pour la plupart d'entre eux, et qui sont tout à fait ravis d'exercer leur devoir civique. En tout cas, voilà, là, sur ce point-là, rien de particulier à signaler, pas de différence visible avec l'atmosphère d'un bureau de vote en France.
Oui, il faut laisser parler.
On veut savoir.
On veut savoir, nous.
Son apologie du régime poutinien va lui coûter sa délégation municipale.
Donc là, 17 pour, 15 ne se prononcent pas et 1 contre. La délibération est adoptée.
Il est suspendu de ses fonctions, mais ça va loin, effectivement.
Oui, alors après, ce genre de personnages à Moscou, on les voit débarquer à chaque élection.
Nous, ce n'est pas si fréquent, hein, je vous rassure.
Oui, non, mais à la limite, d'ailleurs, cette histoire, BFM a pu en parler parce qu'un confrère de Radio France est allé à la rencontre de ce monsieur pendant l'élection. Oui. Je dois admettre que moi, comme correspondant, j'ai arrêté d'aller à leur rencontre parce que c'est généralement assez pénible. Parce qu'en fait, ce monsieur, il l'a fait avec BFM, il l'a fait avec notre confrère de Radio France. En gros, il nous explique la vie, il nous explique qu'on n'a rien compris à la Russie, que 100% des Russes soutiennent Vladimir Poutine et que voilà, on est mauvaise langue quand on critique les élections russes. Bon ben nous, on est sur le terrain, on assiste aux élections. Moi, je vais de bureau de vote en bureau de vote. Je peux vous dire que c'est pas exactement la même.
On peut penser qu'il est rémunéré.
On peut le penser. Alors,
moi, je pense
on
que...
peut le soupçonner.
Il fait des affaires.
Par pure hypothèse, a-t-il touché de l'argent pour dire cela ?
Non, mais il fait des affaires en Russie.
Pour faire
des
affaires en Russie, la Commission européenne, les enquêteurs européens enquêtent en ce moment sur un réseau de députés européens, pas que français, mais qui auraient effectivement touché de l'argent de la Russie. Avant ça, ils ont touché du Qatar. Et pas qu'un peu.
De la Chine.
Et on sait pas, de la Chine. Donc, c'est quand même quelque chose. On va pas, ça n'est pas que la Russie, c'est vieux comme le monde. La bonne question, c'est de savoir comment on s'en prémunit, comment on les traque et comment on les écarte.
Mais ce qui est intéressant, c'est que ça se situe juste dans une bataille de communication et d'information. Parce que ce monsieur, c'est pas sa délégation municipale qui va aider la Russie à quoi que ce soit. Mmh. Et en vérité, c'est la même chose pour les députés européens. En fait, ce qui se passe avec les députés européens, c'est qu'en fait, ils prennent la parole pendant une minute. Personne ne les écoute parce que globalement, personne n'écoute les députés européens lorsqu'ils prennent la parole dans l'hémicycle. Mmh. Mais ensuite, c'est récupéré par les médias russes. Et puis, ils passent et puis ils disent, regardez ce qu'a dit Thierry Mariani, par exemple. Regardez ce qu'a dit Thierry Mariani au Parlement européen. C'est absolument génial. Mmh. Il fait une apologie du régime poutinien. Voilà. Oui. Et c'est utilisé comme
les
ça.
Les islamistes font pareil, hein, et au Parlement européen aussi.
Paul Gougaud.
Ce monsieur, il a un usage interne aussi, en fait, quand il tient ce genre de propos. Derrière, on montre aux Russes ces images-là, on les traduit et on explique aux Russes que, en fait, il y a des, enfin, c'est pas des débats, c'est des dissensions en France, que personne n'est d'accord et qu'en fait, il y a des Français en France qui connaissent la vérité vraie sur ce qui se passe en Ukraine, dans le Donbass. Mais je voulais rebondir sur ce qu'on disait sur l'argent. Moi, je suis même pas convaincu qu'il y ait tout le temps de l'argent parce que, en fait, les convergences idéologiques, elles font souvent, elles ont l'air de faire le travail. Souvent parce que...
Donc il n'y aurait aucun intérêt purement idéologique.
Quand vous débarquez comme ça à Moscou en servant la soupe du Kremlin, en fait, vous êtes une star. Hein. Moi, j'en connais plein, des Français qui débarquent régulièrement à Moscou, qui font le tour des plateaux télé et ils représentent toute la France, ils parlent au nom de la France. Et derrière, je peux vous dire qu'il y en a même qui décident de s'installer à Moscou ensuite. Parce que,
mais c'est quel type de profil ? Alors là, on voit cet adjoint en mer.
C'est assez marqué politiquement.
Oui, ce sont des gens d'extrême droite qui considèrent que Vladimir Poutine est l'ultranationaliste de leurs rêves et qu'il défend des valeurs qu'ils ne sont pas assez défendues en France. Et ils voient en la Russie un paradis parce qu'ils y vont, bien sûr, sans sortir de la capitale et sans avoir la moindre notion de ce que c'est que de vivre en Russie aujourd'hui et du fonctionnement du pouvoir russe qui repose sur une répression.
Il y a aussi une nostalgie du côté de LFI et de ce qui reste du Parti communiste français. Les prises de position parfois sur, notamment la paix à tout prix, c'est-à-dire la paix à tout prix, c'est laisser Poutine et l'armée russe faire ce qu'elle veut pour l'instant en Ukraine et peut-être ailleurs, mais ça ne touche pas que la France. Aux États-Unis, il y a au Congrès, donc au Parlement américain, une faction qu'on appelle la Poutine Wing, c'est-à-dire le lobby de Poutine et du Kremlin chez les parlementaires, au Sénat et à la Chambre des représentants. Donc, ils investissent dans des élus locaux comme celui qu'on a vu, ce bourguignon, effectivement, qui n'est pas une grande star, mais le Congrès américain est aussi pollué par cela. Mmh.
Avec méfiance, parce qu'en plus, ces gens-là, en Russie, sont considérés comme des traîtres. Je veux dire, les Russes considèrent que ce monsieur C'est un traître pour les Français parce qu'il va défendre la Russie en Russie et non pas les intérêts français.
Ah, les Russes considèrent, alors donc, même qu'il défend la vision voilà, russe, considère que c'est un traître.
On va prendre ce qu'il y a à prendre de ces gens-là, mais on va toujours s'en méfier parce qu'on n'aime pas les gens qui disent le contraire de ce que dit leur État, en fait. Et donc, pour les Russes, on a un œil un peu méfiant sur ce genre de personnage.
Je reprends la question de Pablo tout à l'heure. Comment contrecarrer ces ingérences? Qu'est-ce qu'on peut faire contre ces actions, ces actes?
Alors, on peut citer le président américain Joe Biden qui, au mois de juillet 2021, à Genève, et la séquence a été largement rendue publique, dans un tête-à-tête qu'il a eu avec Vladimir Poutine, ça concernait des attaques informatiques visant les intérêts américains. Il a donné au président russe une liste de sites d'infrastructures américaines et il lui a dit que s'il y avait la moindre cyberattaque menaçant ces infrastructures-là, la réponse américaine serait disproportionnée. Donc il n'y a que le rapport de force, il n'y a que la menace, il n'y a que la capacité à mener des opérations de rétorsion qui peut nous prémunir vraiment contre cela.
Merci beaucoup, merci à tous les trois. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces soupçons, plus que soupçons d'ingérence russe sur le territoire français.